Chapitre 4. Une rencontre embarrassante d'un côté et émouvante de l'autre. Une épreuve en amitié. Une manœuvre impudente et une sage résolution. Grand Dieu, qu'est-ce que vous dites là ? S'écria la sympathique Mathilda, épousant aussitôt la nature des sentiments de son amie. C'est bien là la découverte la plus étonnante. Mais remettez-vous, ma chère enfant, il le faut absolument. Appuyez-vous sur moi et marchons tout doucement. Quand nous passerons devant la boutique, vous pourrez jeter un coup d'œil en dedans, et si vos yeux peuvent saisir son visage, vous vous assurerez qu'il n'y a pas d'erreur. D'erreur ? Cria Patty. Vous croyez donc que je ne le connais pas ? Vous pouvez croire, après tout ce que je vous ai conté, que je ne reconnaîtrai pas mon Jack adoré parmi des millions d'hommes ? Mais, Patty, je suis parfaitement sûre qu'il ne vous a pas reconnu. Quelle sottise ! Comment m'aurait-il reconnu ? Il causait à ses poumonnets avec cet autre individu et n'a jamais tourné les yeux de mon côté. Mais vous n'imaginez pas, je suppose, que je vais m'en aller comme cela ? Je vais entrer là où il est et vous verrez alors s'il me reconnaît ou non. Pour l'amour du ciel, Patty, vous n'allez pas vous mettre à suivre des jeunes gens ? Dit Mathilda réellement effrayée. C'est une boutique de celliers, ma chère fille, et il n'y a que des hommes qui entrent là-dedans. Si nous y entrons, on nous prendra pour je ne sais qui, je vous l'affirme. Mais Patty, sans tenir aucun compte des remontrances de son amie, continuait à la traîner après elle, et quand elles eurent atteint la porte de la boutique, elle la poussait bel et bien tout au fond du magasin, où l'objet de leur poursuite était en train d'examiner l'attirail d'un harnais avec beaucoup de soin. Pour le moment, l'intention de Patty était bien plutôt de se faire voir au jeune garde que de lui parler, et, tournant intrépidement autour du très élégant compagnon de ce dernier, elle était parvenue à se placer à environ un demi-pied de distance, face à face avec celui qu'elle cherchait. Très surpris par cette proximité soudaine de vêtements féminins, le jeune homme avait levé la tête et sa physionomie prouvait clairement qu'il reconnaissait la remarquable personne qu'il avait devant lui. Très rouge et très ému, son chapeau aux couleurs voyantes repoussé en arrière, de façon à faire croire qu'il allait quitter sa tête, les joues cramoisies, les yeux largement ouverts, fixés effrontément sur le jeune homme qu'elle poursuivait, tout contribuait à donner à la pauvre Patty l'apparence la moins respectable. Pendant ce temps, sa compagne, dont la tenue, plus sage et plus décente, eût pu servir de protection, terrifiée des manières de Patty, s'était retirée du côté de la porte, se sentant absolument incapable de braver une scène qu'elle jugeait devoir devenir très désagréable. Mais son absence, pas plus que sa présence, ne pouvait grand-chose sur la catastrophe. Le jeune ami de Patty n'eut pas plutôt levé les yeux sur elle que, devenant tout aussi rouge et laissant tomber l'article qu'il était occupé à examiner, il la prit par la main et la conduisit dans la rue sans articuler une parole. D'un pas rapide et agité, il l'entraîna à quelque distance de la porte. Là, il s'arrêta et, transformant en une poignée de main amicale l'étreinte convulsive avec laquelle il l'avait maintenue, il lui dit « Ma chère Miss O'Donagher, j'espère de tout mon cœur vous retrouver en bonne santé. Et j'eusse été vraiment heureux, en d'autres circonstances, de pouvoir vous serrer la main. Mais le désir que vous montrez de renouveler notre connaissance du bateau ne pourrait que m'être très nuisible aux yeux de l'ami qui est avec moi, ainsi qu'aux yeux de n'importe qui. Et je me rappelle trop bien votre bonté d'autrefois pour ne pas être certain que vous éprouveriez un réel chagrin à me faire du tort, ce qui arriverait immanquablement si vous me trahissiez. » « Vous trahir, Jack ? » répondit fort innocemment Patty. « Grand Dieu, non ! Pour le monde entier, je ne voudrais pas vous nuire. Mais vous ne devez pas craindre de me parler quand nous sommes seuls. Dites-moi quand vous viendrez me voir, mon cher, cher Jack. » Et avec une affection toute naïve, elle saisissait la main qui avait comprimé les siennes, causant ainsi au jeune homme un remords et un embarras dont elle n'avait aucune idée et qui, les lui eût-on expliqué, fût-ce resté pour elle un mystère incompréhensible. Malheureux au-delà de toute expression, de plus, tenu de façon à ne pouvoir bouger, Jack se sentait horriblement perplexe, ne sachant ce qu'il valait mieux dire ou faire. perplexité qui, loin de diminuer, ne fit qu'augmenter quand, ayant jeté les yeux sur la boutique, il vit son ami qui stationnait à la porte, retenu dans son désir de venir le rejoindre par une discrétion formée de toutes sortes de suppositions, toutes plus offensantes les unes que les autres pour la pauvre fille inconsciente. En effet, elle était loin de se douter que sa joie si naturelle en rencontrant son cher Jack l'avait placée dans une situation faite pour faire naître à son endroit les soupçons les plus injurieux. Jacques était, ou plutôt avait été, un grand écervelé, mais il n'était pas de nature à accepter avec sang-froid l'idée de compromettre une jeune fille dont le seul tort était de lui avoir fait, en le reconnaissant, un accueil trop affectueux. Après un instant de méditation et de combat intérieur, il dit « Dites-moi où vous demeurez, ma chère Miss Patty, et j'irai vous voir. » Patty tira immédiatement son petit calepin de sa poche et, arrachant une feuille sur laquelle elle avait écrit l'adresse de Mathilda avant que cette dernière quittât Brighton, elle la présenta au jeune garde. « Je ne suis pas chez mes parents en ce moment, dit-elle. Je suis en visite chez une amie. » Très soulagé par cette nouvelle, Jack laissa encore une fois errer sur ses lèvres ce sourire qui avait si fort excité les jeunes ardeurs de Patty, en lui répondant que, puisqu'il en était ainsi, ce serait avec le plus grand plaisir qu'il irait la voir, mais à la condition qu'elle ne parlerait de leur rencontre ni à son père ni à sa mère. « Je n'en dirai pas une syllabe, pas plus à l'un qu'à l'autre, » reprit-elle avec empressement. « Vous savez bien, Jack, que nous étions seuls, vous et moi, à être d'aussi grands amis, et j'espère qu'il en sera encore ainsi, n'est-il pas vrai ? Mais dites-moi donc votre véritable nom, car ce n'est plus Jack maintenant, je le parierais bien. Ça doit être quelque chose commençant par un S. Maman l'a vu sur la fourchette d'argent. » Le jeune homme rougit et se mit à rire. « Il faut m'appeler Monsieur Sidi, Patty. Adieu, j'irai vous voir demain, bien exactement à 2 heures. Adieu. » Et, après lui avoir encore une fois serré la main, il se retira en faisant un grand salut bien respectueux à l'intention de l'ami auquel il revint jurer que la jeune personne à laquelle il parlait, quoi qu'il pût en penser, était encore presque une enfant et d'une famille des plus respectables. Le premier mouvement de Patty, quand il l'avait quitté, avait été de frapper dans ses mains. Action qui pouvait s'interpréter comme l'expression d'une joie trop vive pour être contenue, aussi bien que comme un signal de rappel à l'usage de l'ami qui, pendant ce temps, avait pris une forte avance sur sa jeune compagne. Miss Mathilda Perkins était véritablement fort agitée et, oubliant quelque peu les devoirs que ses 36 ans lui imposaient comme chaperon, elle avait marché en avant tant qu'elle avait pu, n'ayant songé à ralentir son pas qu'au moment où, devant entrer dans le torrent de Piccadilly, la pensée lui était venue que la belle Miss O'Donaghue, favorisée par de si hautes connaissances, pourrait bien la chercher en vain. Patty, s'apercevant qu'elle courait le danger d'être laissée seule au milieu de la rue, appela « Mathilda !» de toute la force de ses poumons, s'élançant en même temps au galop, sans faire la moindre attention aux coudes ni aux yeux de ceux qu'elle bousculait. « Pourquoi donc vous sauverez ainsi, Mathilda ? » s'écriait la jeune fille tout essoufflée en s'emparant du bras de sa compagne. « Que vous êtes donc sotte ? Au nom du ciel, que vouliez-vous qu'il vous arrivât ?»« Oh, rien, ma chère, » répondit Mathilda, qui, en voyant que la jeune personne était seule, commençait à se rassurer. Seulement, mes notions sur la conduite à tenir vis-à-vis des hommes ne m'ont jamais permis de causer avec des étrangers dans la rue. Qu'est-ce que le pauvre Foxcroft aurait pensé, bonté divine, s'il lui était revenu que j'avais suivi des officiers dans une boutique de selliers de St. James Street ? Non, si je ne le voyais de mes yeux, je ne vous aurais jamais cru idiote à ce point, répliqua Patty avec un peu de vivacité. Considérez-vous donc Jack comme un étranger ? Quant à cela, je puis vous affirmer que vous m'êtes plus étrangère que lui. Mon cher Jack, si charmant, si délicieux, si adorable. Ah, comme je l'aime! Il verra comme je suis fidèle. Pourquoi ne l'avez-vous pas regardé aussi, vous, grosse bêtasse? Vous n'avez jamais rien vu moitié aussi beau depuis que vous êtes au monde. Bon, ma chère Patty, il ne faut pas m'en vouloir si j'ai eu un petit moment de frayeur, reprit l'ami, qui se souvenait de l'importance qu'elle attachait à ne pas se brouiller avec Miss O'Donaghue. Vous ne savez pas à quel point les gens de Londres sont terribles ? Tout cela est fort bien, mais si vous vous imaginez que je rencontrerai jamais mon Jack adoré sans lui parler, vous vous trompez complètement. Que ce soit dans la boutique d'un cellier ou dans celle du diable, je m'en moque comme de ça. Et vous a-t-il dit son véritable nom, mon enfant ? Certainement, il s'appelle Sidé et il va venir me voir demain chez vous à 2 heures précises. En vérité. Alors, Patty, il va falloir dire à Louisa que Monsieur Sidé est un ami de votre père. Et surtout, je vous en prie, pas un mot de l'aventure de Saint James Street. Je me soucie de ce que vous direz à votre sœur comme de 2 milliards, Mathilda. Vous pouvez lui dire que Jack est un cousin de maman, si vous voulez. Mais pendant que j'y pense, ajouta-t-elle en se serrant contre sa compagne avec un air de mystère, il faut que je vous dise qu'il y a un secret dans la vie de Jack, un secret qu'il ne veut confier absolument qu'à moi, ce cher garçon. Et je garderai bien son secret, allez, vous verrez. Je n'en doute pas, Patty, du moment qu'il vous le confiera. Et je dois le dire, bien que j'ai fort peu vu ce jeune homme, je trouve qu'il a bien l'air d'être quelqu'un. Mais s'il vous révèle le secret de son déguisement à bord, il le révélera bien sûr à vos parents aussi, répliqua Mathilda. Oh, mais non, pas du tout, s'écria Patty avec véhémence. Il a des raisons particulières pour n'en parler à personne. Il me l'a dit, ce pauvre amour. Et vous ne me croyez pas assez infâme pour vouloir le trahir ? Il m'a dit, vous ne me trahirez pas, n'est-ce pas, Patty ? Et je verrai père, mère, oncle, tante et cousines au fond de la mer Rouge plutôt que de nuire à un seul cheveu de la belle tête de mon Jack. Je vous en ai déjà tant dit que je ne puis rien vous cacher, mais vous seriez aussi habile qu'aimable si vous parveniez à emmener Louisa demain avant 2 heures. J'aimerais 500 fois mieux recevoir Jack seul. Il me dirait alors un tas de choses sur lui, j'en suis certaine. Dites, croyez-vous pouvoir y arriver ? Cette proposition ne laissa pas que d'embarrasser considérablement la personne à laquelle elle était adressée. Sans y répondre catégoriquement, elle pressa tendrement le bras qui s'appuyait sur le sien, en marmottant tout bas que son constant désir était d'obliger sa chère Patty en toute chose. Oh, mais ceci ne fait pas du tout mon affaire ! S'écria tout à coup Patty en s'arrêtant si brusquement qu'elle faillit renverser l'étal d'un boucher qui se balançait bien innocemment derrière elle. Il me faut une promesse formelle. Écoutez, je vous donne ma parole d'honneur que si vous me promettez de vous en aller demain avant 2 heures avec votre sœur, je m'arrangerai, quand papa aura sa belle maison neuve, pour vous ménager un tête-à-tête avec Foscroft dans notre salon. Cet argument alla droit au cœur de Miss Mathilda et elle répondit « Bon, ma chère, je ferai tout mon possible. » Mais tout à coup, Patty s'arrêta et serrant fortement le bras de son amie, elle la força à s'arrêter aussi. « Qu'y a-t-il, ma chère ? » demanda la plus âgée des deux demoiselles. « Ce qu'il y a ? » s'écria la plus jeune. « Il y a que je deviendrai folle. Oh, mon Dieu ! Oui, Mathilda, positivement, je deviendrai folle. » Si vous ne consentez pas à l'instant même à revenir avec moi aussi vite que vos jambes pourront vous porter jusque dans ma chambre. Et pourquoi faire, ma chère ? Est-ce que vous ne serez pas bien fatiguée ? Demanda Mathilda d'une voix languissante. Fatiguée ? Il s'agit bien de cela quand je n'ai pas seulement un pauvre bout de ruban à me mettre, ni au cou, ni au poignet. Ils m'ont fait tant d'histoires à Brighton pour m'empêcher d'acheter des rubans, qu'en dehors de cet horrible bleu foncé, je n'en ai qu'un rose et il est bien enveloppé dans du papier d'argent dans mon tiroir. Pour vous et votre sœur, le bleu était bien suffisant, mais pour Jack, je vous jure que vous me donneriez 1000 livres sterling que je ne consentirais pas à le recevoir avec ces salons bleus si hideux. Oh, ma chère, vous ne pouvez pas être plus belle que vous ne l'êtes avec ce même ruban bleu, répondit son amie. Nous l'avons dit 100 fois avec Louisa. « Allons, allons, venez vite !» fut tout ce que répliqua l'entêté mis au nonague, et elle se mit à tirer sa compagne avec une telle force qu'il n'y avait point à songer à résister. Mistress O'Donaghue était derrière sa jalousie au moment où ces demoiselles atteignaient la maison de la vilaine petite rue, et avant que Patty eût eu le temps de frapper à la porte, sa mère, aussi étonnée qu'inquiète, était devant elle. Mais Patty, avec son habileté accoutumée, ayant trouvé moyen de se faufiler sans rien dire, ce fut la pauvre Mathilda qui dut satisfaire la curiosité anxieuse de Mistress O'Donaghue. Qu'est-ce que cela signifie ? S'écria cette dernière en posant sa large main sur l'épaule de Miss Perkins la jeune. Pourquoi êtes-vous revenue ? Patty a oublié quelque chose, répondit la fidèle et discrète amie. Bonté divine, c'est une honte que de vous faire aller ainsi. Oh, la distance est peu de choses, et vous savez qu'il n'est rien que je ne fasse pour faire plaisir à Patty. Ces dames étaient restées debout dans le corridor de l'entrée pendant cette petite conversation, M. O'Donaghue étant en train de dîner d'un beefsteak aux oignons dans le petit salon, et Mistress O'Donaghue se souciant d'autant moins d'y faire entrer la raffinée Mathilda qu'elle avait annoncé devoir dîner à 7 heures à Richmond ce même jour. Toutefois, Miss Patty s'attarda tellement à l'étage supérieur qu'il devint impossible de ne pas offrir à Miss Mathilda de s'asseoir. Il ne vous sera pas désagréable de trouver Donnie attablé à son lunch, dit-elle. Et, ouvrant la porte toute grande, elle ajouta très haut : Cette sotte de Patty a oublié quelque chose et vient de faire à Mathilda Perkins tout le chemin de Brompton ici pour le chercher. Vous allez être scandalisée de me voir prendre une nourriture aussi substantielle pour mon lunch, ma chère Miss Mathilda, dit le maître de la maison. Mais la vérité est que j'ai été tellement retenue au club par Lord Robert que je me suis décidée à envoyer chercher quelque chose d'un peu solide avant de retourner à Richmond. Que diable peut faire Patty là-haut ? S'écria avec impatience Mistress O'Donaghue qui mourait de faim. Qu'est-elle donc venue chercher, Mathilda ? Je ne sais pas positivement, balbutia Mathilda en rougissant. Laissez-la donc tranquille, dit M. O'Donaghue, et si notre charmante amie veut bien lui passer ses petits caprices, pourquoi vous en plaindriez-vous ? Du reste, il faut croire vraiment qu'elle a ses raisons pour agir ainsi, ajouta-t-il en levant la tête comme sa fille entrée, car, sur mon âme, je ne l'ai jamais vue si jolie. Qu'êtes-vous donc venue chercher, Patty ? Reprit la mère.
Un mouchoir de poche, maman.
Comme si Mathilda n'aurait pas pu vous en prêter un. D'ailleurs, ne vous avais-je pas promis de vous envoyer toutes vos affaires dans la soirée ? Quel besoin aviez-vous de traîner ainsi dans les rues ?
Besoin ou non, maman, j'emporte ce petit paquet parce que c'est mon désir. Cela suffit, je suppose.
Et qu'est-ce qu'il y a dans ce petit paquet ? Vous n'en portez pas mon col de dentelle, j'espère.
Allons, voilà que vous me prenez pour une voleuse. Est-ce assez aimable, hein, Mathilda ?
Répondit Patty tout en se dirigeant vers la porte.
Voyons, venez-vous.
Patty, dit le père, pris tout à coup de la plus malheureuse recrudescence d'affection, venez m'embrasser. Jusqu'ici, la jeune personne, ayant toujours manœuvré de façon à tenir son petit paquet derrière son dos, était parvenue à le dérober, sinon à la vue, du moins à l'atteinte de sa mère. Mais la malencontreuse sommation de son père vint lui enlever tout le bénéfice de sa tactique. Elle se pencha en avant pour recevoir la caresse paternelle, mouvement dont Mistress O'Donaghue profita aussitôt pour saisir le petit paquet, l'ouvrir en un tour de main et découvrir à tous les yeux plusieurs zones d'un ruban du plus beau rose, dont une partie avait été façonnée en plusieurs nœuds de diverses grandeurs.
Au nom du ciel, que voulez-vous faire de ceci ? S'écria Mistress O'Donaghue avec toutes les marques du plus vif mécontentement. Un ruban pour lequel votre père a dépensé 4 shillings 9 pence et que vous deviez si bien garder pour les grandes occasions. Est-ce que vous donnez une soirée, Mathilda ?
Malgré tous les avantages que la supériorité de son âge aurait dû donner à cette demoiselle sur sa jeune compagne, il était bien évident qu'elle ne pouvait rivaliser avec elle, ni en courage, ni en présence d'esprit. Hésitante, rougissante,
Perdant presque contenance, elle répondit
« Je ne sais pas au juste, Mrs. O'Donaghue, mais je crois que nous attendons quelques visites ces jours-ci, et Patty aime toujours à se faire belle devant les étrangers. »
« Et maman serait la première à me gronder si j'agissais autrement, » dit Patty, et se hâtant de déposer un baiser sur le front de son père, au moment où, portant à ses lèvres un pot de porteur, il renversait sa tête en arrière, elle se sauvait de la chambre d'abord et de la maison ensuite, après avoir envoyé de la main un adieu à sa mère. Mais bien que les belles amies cheminassent tranquillement vers Bellevue Terrasse, elle n'avait nullement mis dedans Mistress O'Donaghue comme Patty s'en flattait, car cette dame n'eut pas plutôt achevé de se réconforter par un bon verre de sa boisson favorite qu'elle s'adressa à son époux en ces termes.
« Ne voyez-vous pas, Donny, aussi clairement que deux et deux font quatre, que ces deux filles ont quelques tours de leur façon en tête? Je parierai que si nous allons leur faire visite demain dans la matinée, nous y trouverons quelques beaux. Non pas que j'y vois aucun mal, mais je ne m'explique pas toute leur cachotterie à cet endroit. Il y a quelques méfaits là-dessous, n'est-il pas vrai ?»
Patty est bien jeune pour craindre une chose de ce genre, reprit M. O'Donaghue. Cependant, je ne demande pas mieux que d'aller les voir demain. Seulement, songez-y bien, c'est à la condition que vous me laisserez la direction de l'affaire. Je ne veux pour rien au monde avoir des criailleries devant les étrangers.
C'est très bien, cher ami, je ne me mêlerai de rien. Mais il sera fort salutaire pour Mademoiselle Patty de voir que si les yeux de ses parents ne sont plus aussi brillants que les siens, du moins ils sont aussi clairvoyants.